Il y a des moments dans la vie où nous pouvons perdre pied, des moments où nous sommes comme un navire dans la tempête. Certains d'entre nous, j'en parlais à l'instant, peuvent traverser des tempêtes successives. D'autres traversent des tempêtes plus ponctuelles. Et dans la tempête, il est souvent difficile de trouver un lieu où se réfugier. Il n'y a d'ailleurs peut-être que Jésus qui pouvait dormir tranquillement sur la barque en pleine tempête. On a aussi l'exemple du prophète Jonas, mais c'est pour d'autres motivations. David, dont Philippe nous a parlé ce matin, le grand roi de l'Ancien Testament, s'est plusieurs fois trouvé sans abri, sans refuge sûr. Et dans le psaume 11, il nous fait part de ses pensées à ce sujet. Et j'aimerais vous inviter ce matin à méditer ce psaume, le psaume 11, que nous allons lire. Et je vais lire dans la version de la Nouvelle Bible Second. Cherchons donc ensemble dans le livre des psaumes le numéro 11. C'est dans le Seigneur que je trouve un abri. Comment pouvez-vous me dire « Va-t'en dans la montagne comme un oiseau ?» Car les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondations sont rasées, le juste, que ferait-il ? Le Seigneur est dans son temple sacré. Le Seigneur a son trône dans le ciel, ses yeux regardent, ses regards sondent les êtres humains. Le Seigneur sonde le juste et le méchant, il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des braises, du feu et du soufre. Un vent brûlant, voilà la coupe qu'ils ont en partage. Car le Seigneur est juste, il aime ce qui est fait pour la justice. Ce sont les gens droits qui peuvent voir sa face. Amen. J'aimerais découper la méditation de ce texte en quatre temps ce matin. D'abord, nous allons voir quelle est la situation du psalmiste, de celui qui écrit le psaume, probablement David lui-même. Ensuite, nous verrons de quel refuge sûr il parle, quel est l'abri qu'il trouve. Et dans un troisième temps, que je partagerai en deux, nous verrons en quoi consiste ce refuge. Regardons d'abord un peu la situation de l'auteur de ce psaume. Il s'agit probablement de David, peut-être même d'un David fuyant devant le roi Saül. Vous vous souvenez peut-être que David a été oint par Samuel, qui est à la fois juge et prophète à ce moment-là. Il a été oint, c'est-à-dire qu'on lui a mis de l'huile sur la tête, pour le reconnaître comme roi d'Israël, alors qu'il y a déjà un roi, le roi Saül. Mais Dieu considère que Saül est un roi décevant. Et d'ailleurs, Saül ne met pas longtemps à être jaloux et à nourrir une haine féroce contre celui qu'il a d'abord pris dans son armée, celui qui a battu le géant Goliath. Et puis finalement, Saül se ferme de plus en plus sur lui-même, pense au complot systématique contre lui. Son fils Jonathan même se lie d'amitié avec ce traître de David. Et toute la fin du premier livre de Samuel est une véritable chasse à l'homme où David est traqué comme un gibier par le roi Saül qui veut sa peau. Et peut-être nous trouvons-nous ici dans ce psaume 11 à un moment de la vie de David où il est en fuite devant le roi Saül. Et ici, les montagnes dont il est question au verset 1 sonne peut-être comme le conseil que les hommes de David lui donnent. Je le relis. « Va-t'en dans la montagne comme un oiseau. » Les oiseaux, en particulier les rapaces, ont le don de trouver des endroits imprenables par les êtres humains et même peut-être par les autres prédateurs pour se réfugier, pour se cacher. Et c'est peut-être ce conseil que les hommes de David lui donnent. « Fuis, fuis dans les montagnes comme un oiseau qui va chercher un refuge sûr. » Pourquoi fuir ? Le verset 2 nous le dit. Et là, nous avons peut-être encore les propos des hommes qui sont avec David. « Car les méchants bandent leur arc, ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. » Ceux qui ont le cœur droit, dans ce texte ici, c'est David et peut-être ses hommes. Le verset 3 est peut-être encore un des propos des hommes de David. « Quand les fondations sont rasées, le juste, que ferait-il ? » Ou bien est-ce peut-être la question ou l'hésitation de David lui-même ? La fuite serait alors la seule solution, car même l'homme droit, David, ne peut rien faire face à la menace. Et la question du verset 3, « Quand les fondations ont disparu, que fera le juste ?» La question appelle la réponse « Rien du tout. » On ne peut rien faire quand il n'y a pas de terrain sûr sur lequel nous pouvons marcher. David parle des fondements qui vacillent. Il n'y a pas d'endroit sûr pour s'abriter. Il peut s'agir aussi des fondements même de la justice et du droit qui sont bafoués. David, qui est juste, qui a été oint par l'Éternel, est pourchassé par Saül, qui a été désavoué. Le mal semble l'emporter. Y faire face, si jamais David et ses hommes se disaient « Allons combattre », cet acte serait probablement suicidaire. Une poignée d'hommes en fuite contre les unités spéciales du roi Saül, c'est suicidaire. La conclusion de ces premiers versets s'impose sous la forme d'une question. Fuir dans la montagne, est-ce un abri sûr ? Quand les fondations sont rasées, verset 3, le juste, que ferait-il ? Nous-mêmes avons pu expérimenter ce genre de situation. Oh, peut-être n'avons-nous pas été pourchassés par un tyran, mais peut-être avons-nous, nous aussi, parfois cette question : que faire quand mon patron ou un collègue me rend la vie difficile, voire me harcèle ? Que faire quand ma vie de couple ou la relation avec les adolescents à la maison traverse une zone de turbulence ? Que faire quand la mort frappe ma famille ? Quand on me crée des difficultés parce qu'on sait que je suis chrétien ? Voilà le genre de questions que nous pouvons nous poser, même si nous ne sommes pas nous-mêmes en fuite devant un roi. Notez comment le psalmiste formule la question. Quand tout semble perdu, ou du moins quand on est vraiment secoué, que fera le juste ? Que fera le juste ? Et dans la suite de notre méditation, nous allons essayer de voir comment répondre à cette question. Que fera le juste ? Regardons maintenant quel abri David trouve. Au verset 3, il dit « Quand les fondations sont rasées, le juste, que fera-t-il ? » Verset 4, « Le Seigneur est dans son temple sacré. » Surprise ! Le psalmiste ne répond pas à la question, ou en tout cas, il ne répond pas comme on s'attendrait à ce qu'il réponde. Juste au moment où on va savoir ce que le juste doit faire pour sortir de l'impasse dans laquelle il est, juste à ce moment-là, il nous dit que le Seigneur est dans son temple sacré. C'est quand même étonnant. Que dois-je faire pour sortir de l'impasse ou trouver un abri sûr? Quelle est la solution à mon angoisse, à ma détresse, à l'épreuve qui me frappe de plein fouet? Le Seigneur est dans son temple céleste. Adonai, le Seigneur, c'est le mot qui revient le plus souvent dans ce psaume. 5 fois. Pourtant, ce psaume est court. 1 fois au verset 1, 2 fois au verset 4, et puis encore 1 fois au verset 5 et au verset 7. Et pratiquement toujours en tête de phrase. Le début du psaume est particulièrement intéressant ici. Le texte hébreu dit littéralement « Dans le Seigneur, je me réfugie ». En hébreu, la phrase ne se construit pas comme en français. En français, nous mettons le sujet, et puis le verbe, et puis le complément d'objet, par exemple. Sujet, verbe, complément, on apprend ça à l'école. En hébreu, on met d'abord le verbe, et puis ensuite, on peut mettre le sujet ou le complément et le sujet. Mais c'est le plus souvent le verbe qui est en premier dans la phrase. Donc, lorsque nous lisons un verset en hébreu et que le premier mot de la phrase n'est pas le verbe, c'est que l'auteur insiste particulièrement sur le mot qu'il met en tête de phrase. Et dans ce premier verset, le mot qui est en premier, c'est le Seigneur. Dans le Seigneur, je me réfugie. La Bible du Semeur traduit « Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel », ce qui ne me semble pas rendre complètement justice au texte. Et c'est pour ça que j'ai préféré lire dans la Nouvelle Bible Second qui dit bien « C'est dans le Seigneur que je trouve un abri ». Vous voyez ? Bon, on peut considérer cela comme un détail, mais c'est pas tout à fait la même chose de dire « J'ai trouvé, moi, mon refuge dans le Seigneur » que de dire « C'est le Seigneur lui-même qui est mon refuge ». Dans un cas, l'accent va porter sur l'action de l'homme « J'ai trouvé mon refuge dans le Seigneur ». Dans l'autre, on va insister davantage sur la présence et l'action même de Dieu. Et donc, quand le psalmiste pose la question au verset 3 « Que va faire le juste ? » La réponse qui vient, c'est Dieu. Dieu. Quand tout semble perdu, quand on est dans l'impasse, le vrai refuge, ce ne sont pas les montagnes. C'est pour ça que David dit « Comment pouvez-vous me dire, va-t'en dans les montagnes comme un oiseau ?» Le vrai refuge, c'est Dieu lui-même. C'est dans le Seigneur, verset 1, que je trouve un abri. Ce qui veut dire que, au-delà des solutions humaines, qui peuvent d'ailleurs être tout à fait sensées, le conseil des hommes de David, au verset 1, 2 et peut-être verset 3, n'est pas bête. Fuir dans les montagnes, comme les oiseaux pour trouver un abri, c'est probablement un bon conseil. Mais au-delà des solutions visibles, et peut-être à portée de main, parfois même facile, il y a le Seigneur lui-même. Et c'est lui que nous pouvons prendre comme refuge. Le seul abri qui soit vraiment fiable pour le chrétien, c'est son Seigneur. Alors on pourrait se demander, qu'est-ce qui garantit que Dieu soit un abri fiable, un abri sûr, un abri solide? J'aimerais répondre à cette question en 2 temps. D'abord, en parlant de ce que Dieu fait, puis en parlant de ce que Dieu est. Qu'est-ce qui garantit que Dieu soit un abri solide? Regardons d'abord ce que Dieu fait. J'ai mentionné tout à l'heure que Dieu est dans son temple céleste. sur un ton qui pouvait laisser penser que Dieu est là-haut, loin, et ne se préoccupe pas du psalmiste en détresse. Il serait dans son temple, loin des réalités humaines. Mais en fait, il n'en est rien. Que fait Dieu ? Nous lisons que Dieu est dans son temple céleste. Cela veut dire qu'il règne. Cela veut dire qu'il est sur son trône dans le ciel, verset 4. Petite parenthèse, ici le ciel, c'est le lieu de la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement le ciel où les oiseaux volent. C'est le temple où Jésus-Christ est entré après son ascension et où il règne aujourd'hui avec le Père. Relisez l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Si Dieu est dans son temple céleste, qu'il est sur son trône, cela veut dire pour le psalmiste qu'il y a un roi avec un R majuscule dans le ciel, un roi qui est supérieur au roi Saül qui peut-être le pourchasse. Et ce Seigneur, le roi tout-puissant et éternel, ce Seigneur regarde. C'est la deuxième chose que Dieu fait. Et ce n'est pas un coup d'œil furtif quand il a le temps. Non. Dieu observe. Dieu scrute. Dieu sonde. Autant de mots qui sont ici répétés dans ce texte et qui fonctionnent un peu comme des synonymes pour décrire que le Seigneur, depuis son trône, évalue les intentions des hommes, évalue leur motivation profonde. En lisant ces versets, j'ai pensé à ce que dit David dans un autre psaume. Écoutez. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, on retrouve le même mot, sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est la fin du psaume 139. Ce magnifique psaume où David s'émerveille de tout ce que Dieu sait. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. L'homme ne connaît pas les profondeurs de son être. Il n'y a que Dieu qui puisse sonder les cœurs et les reins, comme dit un autre texte de la Bible. Nous ne sommes pas transparents à nos propres yeux. Seul Dieu peut voir ce qu'il y a dans l'être intérieur. Dieu règne, Dieu observe, et Dieu exerce aussi son jugement. Verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des braises, du feu et du soufre, un vent brûlant, voilà la coupe qu'ils ont en partage. Parfois on trouve la traduction braise, parfois la traduction filet, on ne sait pas trop ce que signifie ce mot en hébreu. S'il s'agit d'un filet, on peut penser au piège tendu par les méchants dont parle David, et faire le rapprochement avec le dicton français, tel est pris qui croyait prendre. Alors, ce dicton ne se vérifie pas toujours, mais il est quand même vrai. On a quand même plus de chances de tomber dans un piège quand on fait des bêtises, quand on enfreint les règles ou quand on joue avec le feu. Voyez par exemple, quant aux informations, on entend parler d'un règlement de compte au sein de la mafia. Souvent des jeunes, voire des très jeunes, qui sont impliqués dans des trafics et qui tombent sous les balles. Qui sont eux aussi traqués, mais pour de mauvaises raisons. L'expression du feu et du soufre est probablement une expression qui reprend les mots pour parler, pour qualifier le jugement et la condamnation de Sodome et Gomorre. le feu et le soufre, Genèse chapitre 19. Et le vent brûlant, peut-être ce vent, le sirocco, le vent du désert, un vent chaud dont il vaut mieux se protéger. Des images qui sont utilisées ici pour dire que Dieu, de son trône céleste, juge les êtres humains. Non seulement il observe le bien et le mal qui sont faits sur cette terre, mais il exerce aussi ses jugements. Pour nous-mêmes aujourd'hui, nous pouvons reprendre cette question du verset 3. Que peut faire le chrétien quand les fondements, en particulier les fondements du droit, de la justice, semblent bafoués? Quand le mal qui prolifère autour de nous et dont nous sommes parfois les victimes, parfois même les auteurs, en partie au moins. Mais lorsque nous sommes victimes, que pouvons-nous faire? Que peut faire l'homme droit, le chrétien, dans cette situation? La réponse que donne le psaume ici, c'est « Laissez Dieu exercer la justice et le jugement. » Il en est un qui siège sur son trône. Il y a déjà un roi qui juge les êtres humains. Et de nouveau, ce texte m'a fait penser à ce que l'on trouve dans un passage du Nouveau Testament. Écoutez ce que dit Paul. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimé, mais laissez place à la colère, car il est écrit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Mais, autre citation de l'Ancien Testament, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des braises, on retrouve le mot braise, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Laissons Dieu exercer sa justice et son jugement. Voilà ce que Dieu fait dans ce psaume. Voyons maintenant, pour terminer, pourquoi Dieu fait-il tout cela? Nous avons posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui garantit la fiabilité de Dieu comme abri? Et nous avons répondu, en regardant ce que Dieu fait, l'autre élément de réponse, c'est ce que Dieu est. En Dieu, le psalmiste trouve le plus sûr abri parce que Dieu est juste. C'est ce que dit le verset 7. Car le Seigneur est juste, il aime ce qui est fait pour la justice. Ce sont les gens droits qui peuvent voir sa face. Si donc Dieu, de son trône céleste, observe, scrute, examine les motivations des hommes, ce n'est pas pour passer le temps ou pour leur jouer quelques mauvais tours, c'est parce que c'est dans la nature même de Dieu de vouloir et de faire le bien. Puisque Dieu est juste et que les hommes ont été créés comme son image, alors Dieu s'attend à ce que les hommes fassent ce qui lui plaît, c'est-à-dire ce qui convient à sa justice, à sa droiture. Car le Seigneur est juste, il aime ce qui est fait pour la justice. Verset 7. Et nous avons lu aussi au verset 5, « Il déteste celui qui aime la violence. » Remarquez qu'une promesse est attachée à la pratique du bien. Puisque le grand roi de l'univers est parfaitement juste, ceux qui se confient en lui et qui pratiquent la justice verront sa face. C'est la récompense des justes, des hommes droits dont le texte parle. Voir la face de Dieu, en hébreu, c'est être admis en sa présence et jouir de sa faveur. Et là, nous avons une espérance que nous pouvons comprendre à deux niveaux. Le premier niveau est celui-ci. Au cœur de la tourmente, quand tout vacille, quand tout semble perdu, ce psaume 11 nous invite à placer notre confiance en celui qui règne, qui connaît toutes choses, qui juge parfaitement de toute action humaine, bonne et mauvaise, de tout comportement, et cela depuis son temple céleste. Dieu est déjà lui-même un abri dans la détresse, aujourd'hui. Et cette espérance, nous l'avons aussi à un deuxième niveau, qui est celui-ci. Au cœur de la tourmente, quand tout vacille, quand tout semble perdu, ce psaume 11 nous invite à espérer la venue définitive du roi et de son temple céleste. Au retour de Jésus-Christ, les méchants seront à jamais chassés loin de Dieu, tandis que les justes, c'est-à-dire ceux qui, par sa grâce, auront aimé la justice, les justes régneront avec leur roi sur la terre renouvelée. Et c'est ce que nous trouvons aussi tout à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Je lirai quelques versets encore pour terminer. Il n'y aura plus de malédiction. C'est Apocalypse 22, versets 3 à 5. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front, comme un sceau, comme un signe d'appartenance. La nuit ne sera plus, et ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera, et ils régneront à tout jamais. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce psaume que dans ta bonté tu as voulu nous faire parvenir jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions le lire, le méditer et le mettre en pratique. Aide-nous à te prendre, toi, le grand Dieu, le roi éternel, à te prendre comme notre abri. Au-delà de tous les conseils ou de toutes les solutions que nous pouvons peut-être voir, aide-nous à compter sur toi. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas discerner comment sortir des épreuves, mais nous savons que tu as prévu avec l'épreuve aussi un moyen de sortir. Et nous te prions que tu nous aides, Seigneur. Je te remets ceux d'entre nous qui traversent actuellement des difficultés particulières. Que tu sois un abri sûr et solide pour eux. Et que dans ce temps d'épreuve, nous puissions méditer sur la confiance en toi, sur le fait que tu diriges toutes choses, même si nous ne comprenons pas toujours le cours des événements. Aide-nous à placer notre confiance en toi qui est parfaitement juste, parfaitement droit, qui connaît toutes choses, qui est parfaitement bon. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains pour que ce psaume nous serve de nourriture tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.